VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Media Dakar, très heureux à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Ebola en République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont nommé ce jeudi un coordinateur de l'intervention d'urgence contre l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC pour entreprendre de nouveaux efforts dans la riposte anti-Ebola. Une nouvelle fonction confiée à David Gressley, qui occupe actuellement le poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU au sein de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays. Monsieur Gressley y supervisera la coordination des activités de soutien international à la lutte contre le virus Ebola et veillera à ce qu'un environnement favorable, en particulier sur le plan sécuritaire et politique, soit en place pour que la campagne anti-Ebola soit encore plus efficace, a souligné l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a elle aussi nommé à Kinshasa un représentant spécial de la lutte contre Ebola, le docteur Peter Graf. L'épidémie a déjà fait plus de 1240 décès pour plus de 1865 cas confirmés et probables dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. L'OMS estime que le risque de propagation à d'autres provinces de l'est de la RDC et aux pays voisins reste très élevé. Au Gabon, 24 heures après son limogeage, le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou s'est dit mercredi victime d'une cabale politique. Le leader du Parti social-démocrate a accusé l'entourage du président Ali Bongo Ondimba d'être à l'origine de son éviction. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze, nous en dit plus.
Pierre Claver Maganga Moussavou a retrouvé sa liberté de ton. Devant des journalistes, il a nié toute implication dans le scandale des conteneurs de bois Kevazingo.
Le scandale éclate quand le Kevazingo est au port. Il est bloqué. Comment il a fait pour partir de la forêt jusqu'au port? On devrait vous le dire parce que moi je n'étais pas associé à tout cela.
Le leader du Parti social-démocrate dit être victime d'un complot politique et met en garde le chef de l'État Ali Bongo contre le sort qui vient de lui réserver.
Je lui bénis le droit de m'humilier. Parce que nous nous connaissons, je respecte les gens, il faut que les gens me respectent. On peut demander du respect à tout le monde, mais pas à moi.
Moi qui ai souffert le calvaire pour amener la paix dans ce pays, je suis payé à monnaie de singe. C'est indigné Pierre Claver Maganga Moussavou, se opposant à Ali Bongo Ondimba, candidat malheureux à la présidentielle 2016 avant de se rallier à Jinping, avait été nommé conformément au résultat d'un dialogue politique avec une partie de l'opposition. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, de nouveaux ennuis judiciaires en vue pour le chef de file de l'opposition, Amadou, qui vit en exil depuis 2016. Le gouvernement a décidé en effet de saisir une procédure, de saisir un procureur afin d'ouvrir une enquête pour, je cite, propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral des forces de défense et de sécurité en temps de guerre contre un homme politique. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Le communiqué du ministère de la Défense nationale ne le nomme pas, mais c'est sans doute Hama Amadou que cette enquête va viser. En fin de semaine dernière, en effet, ce dernier, au cours d'une rencontre avec les militants de son parti politique tenu en Europe, a estimé que le gouvernement profite de la situation d'insécurité pour envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens, Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale.
Dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats, dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel.
Pour l'instant, le parquet de Niamey n'a pas communiqué sur la suite qu'il réservera à cette saisie du gouvernement. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, deuxième jour du sit-in de 48 heures entrepris par des habitants de Bamako pour protester contre l'installation dans la capitale du nouveau quartier général de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel, lancé en 2017 et qui regroupe les cinq pays suivants, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Pour rappel, le précédent quartier général de cette force à Sévaré, dans le centre du Mali, avait été la cible d'une attaque djihadiste le 29 juin, ce qui a conduit à son déménagement à Badalabougou, un quartier de Bamako.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, l'opposition a réagi à la déclaration du président Patrice Talon qui a promis lundi, lors d'une allocution télévisée, d'engager des échanges francs et constructifs avec ses adversaires après la crise post-électorale qu'a connue le pays. Mais l'opposition estime que les conditions ne sont pas réunies pour dialoguer avec le président Talon. C'est du moins ce qu'a confié à Irénée Armand-Nungbo, l'ancien député et secrétaire général du parti d'opposition Restaurer l'Espoir, Guido Sou Midokpe. On l'écoute.
Pour nous, il était quand même utile que le président puisse faire référence au puissant message que le peuple du Bénin lui a envoyé le 28 avril dernier, à savoir que le peuple n'était pas du tout d'accord avec l'exclusion des partis de l'opposition au cours de ces dernières élections. Et pour nous, il était aussi important qu'il puisse faire référence à la tuerie qui a été organisée dans un certain nombre de villes du Bénin, à savoir la ville de Cotonou et un certain nombre de villes du Nord, où, pour la première fois depuis 1960, l'armée a ouvert le feu sur des citoyens civils et non armés. Mais nous n'avons vu véritablement pas de compassion véritable de la part du président de la République, parce que pour nous, il s'agissait de dénoncer ce fait et de situer les responsabilités.
Le président Talon a promis cependant de tenir sous peu des échanges francs et constructifs avec l'opposition. Votre réaction ?
Non, la réaction de l'opposition s'est faite sans embâche hier, parce que nous avons trouvé que les conditions ne sont pas réunies pour un quelconque dialogue que ce soit. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, le président ne donne pas les garanties qu'il est sincère. Ça, c'est le premier point. Il ne donne pas aussi les garanties qu'il est démocrate. Nous voulons discuter avec un démocrate. Donc, tant que nous ne verrons pas la matérialisation que nous avons en face de nous, un démocrate, pour nous, il est hors de question d'aller autour d'une quelconque table de négociation que ce soit.
Les députés ont été déjà installés. Et trouvez-vous judicieux qu'on les révoque et qu'on organise à nouveau des élections ?
Non, pour nous, ce qui s'est déroulé le 16 mai dernier, c'est un non-événement. Parce que pour la première fois depuis 1960, on a assisté à une hyper-militarisation de l'Assemblée nationale. Je suis même allé jusqu'à dire que c'est une profanation de notre hémicycle, de ce lieu symbole de notre démocratie, de ce lieu symbole de notre liberté et de ce lieu symbole du combat de nos pères. Pour tous les résistants au Bénin, c'est un non-événement.
Quelles seront les conditions de l'opposition pour qu'elle participe aux discussions avec le gouvernement ?
La première condition, et nous l'avions dit dans la déclaration d'hier, c'est que le président de la République puisse procéder à la révocation pure et simple de ce qu'ils appellent la 8e législature. Et ensuite, nous donner des garanties sur les libertés et nos camarades qui sont détenus et tout le reste. Tant que nous n'aurons pas de garanties assez nouveaux pour nous, il est hors de question que nous puissions discuter avec le président de la République.
Mais jusqu'à quand allez-vous maintenir la résistance?
Le ballon est dans son camp désormais.
Guido Sou Midokpe, ancien député et secrétaire général du parti d'opposition Restaurer l'Espoir, joint à Cotonou au Bénin. Afrique du Nord maintenant, poursuite des combats en Libye. Les conditions ne sont pas réunies pour un cessez-le-feu dans le pays, a déclaré mercredi le maréchal libyen Khalifa Haftar en étant reçu à Paris par le président français Emmanuel Macron, qui l'a exhorté à reprendre le processus politique pour sortir son pays du chaos. La présidence française a reconnu à l'issue de la rencontre que la défiance entre les acteurs libyens est plus forte que jamais. Mais l'homme fort de l'est de la Libye, dont les troupes assiègent Tripoli, la capitale libyenne, ne s'est pas exprimé après la réunion qui a duré plus d'une heure. Pour sa part, le chef du gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par la communauté internationale, Faez al-Sarraj, a estimé à Tunis que le cessez-le-feu en Libye ne pouvait se faire sans le retrait des agresseurs, c'est-à-dire des forces du maréchal Khalifa Haftar. Sahara occidental, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ancien président allemand Horst Köhler, 76 ans, a démissionné de ses fonctions pour raison de santé. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les Nations Unies dans un communiqué. Horst Köhler est en fonction depuis juin 2017. L'ONU ne donne aucune précision sur les problèmes de santé de l'ancien président allemand. Et pour terminer, ici à Washington, le président Donald Trump a écourté mercredi une réunion à la Maison-Blanche avec les leaders démocrates du Congrès sur les infrastructures. Il leur a clairement fait savoir qu'il ne négociera pas avec eux tant qu'ils poursuivront l'examen du rapport Mueller sur les ingérences russes dans les élections américaines de 2016. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.